Salut tout le monde, ici Pierre Bonneau-Rivard. Bienvenue à un autre épisode du Carré de Sable. Merci beaucoup d'être à l'écoute. J'espère que vous allez bien. On vient d'annoncer la zone rouge, Montréal, Québec, Chaudière-Appalaches. Donc, c'est le bordel partout, c'est reparti. Hang in there, pour vrai, ça va passer. Il faut juste faire ce qu'il faut faire. Merci beaucoup d'être à l'écoute, honnêtement. Je suis très content de vous lire. Je reçois plein de messages et je trouve ça vraiment trippant de savoir qu'il y a autant de monde à l'autre bout de ce projet-là. Surtout en ces temps de marde où, genre, tout est dol puis que t'es morose une journée sur deux parce que tu sais pas si ta carrière va exister encore dans deux semaines. Fait que je suis vraiment content de savoir que vous êtes à l'écoute. Ça me fait beaucoup de bien. De vous voir et de vous lire. C'est le moment de vous demander si ça vous tente de vous abonner au Patreon. C'est honnêtement, en ce moment, plus que jamais, ce serait vraiment utile pour moi que vous le fassiez. Je travaille très fort sur le Carré de Sable. J'ai pas l'intention d'arrêter, évidemment. Là. Je vais continuer à être là. Je vais continuer de sortir des épisodes de plus en plus intéressants, d'aller chercher des invités qui vous surprennent le plus possible tout le temps pour essayer de faire un meilleur show possible. Je travaille très, très, très fort là-dessus. Puis votre support sur Patreon fait une énorme différence pour moi dans ce projet-là. Fait que si jamais tu y penses, si jamais ça fait longtemps que tu te demandes « Hey, je le fais-tu? Je devrais-tu le faire? » c'est le moment de passer à l'action, honnêtement. Les prochains mois vont être rudes pour tout le monde. En fait, c'est valide pour bien du monde, autant dans le monde de l'humour que dans la vie en général. Mais c'est une façon de supporter le podcast et de m'aider à passer au travers de cette crise-là que j'ai franchement aucune idée pour l'instant que c'est que je vais faire. Mais c'est pas grave, je vais trouver. Je me débrouille tout le temps. Côté résilience, je me trouve pas pire. Je m'accorde pas souvent de qualité, mais celle-là, je me l'accorde. Fait que, bref, ça vous tente de vous abonner au Patreon. Je vais être bien heureux de voir votre nom popper là. Et sinon, ben, continuez d'écouter le show, continuez de vous amuser, continuez de m'écrire. Je suis tout le temps content de lire ce que vous avez à dire et vos commentaires. Et puis prenez soin de vous surtout. Là, ça va être mentalement l'automne plus la deuxième vague, là, ça va être lourd. Fait que focussez là-dessus, mangez des fruits, faites-vous des smoothies, puis restez heureux, ça va bien aller. C'est-tu que c'est lourd de dire ça? C'est pas grave. Bon épisode! Salut! Ah, t'as rechangé ton nom, ouais, c'est correct ça.
Qui ça? Moi?
Toi, ouais.
Guillaume?
Non, toi.
Luc.
Tout le monde?
T'aurais dû mettre number 58.
Non. Ouais, on va donner à quelqu'un d'autre, là.
Ouais. Ah ouais?
Ils vont pas leur faire.
C'est fini. C'est fini dans ma vie d'être un numéro.
Oh. You guess.
Maintenant, t'es rendu dans l'équipe des calculateurs.
Hein? Ouais, exactement. Exactement.
Nice.
Maintenant, j'évalue les gens comme étant des numéros.
Ouais. C'est ça, t'es passé de l'autre bord. Tout le abuse que t'as reçu, tu le repasses en n'ayant tiré aucune leçon.
Ah, non, aucune leçon. Aucune leçon. L'important, c'est d'être le plus dissocié, aucune implication sentimentale.
Exactement.
Vraiment, tu sais, production, sinon au hachoir.
Oui, l'empathie, c'est pour les faibles.
Exact.
As-tu vu Pinot derrière lui? Il y a un buste d'Alphonse Desjardins.
Non, j'ai vu qu'il y avait un gros gun. Ça incite à la violence.
Ouais.
Oh.
Ah, joli buste. Ouais.
Je me serais senti mal de dire joli buste si ça avait été une fille, mais non, c'est correct. C'est bon.
C'est Pinot. De toute façon, il s'entraîne là, avec Mike Luster. Là.
C'est une belle paire de bustes que tu as là.
Norimène. Norimène, sa femme. Sa femme ou c'est
lui? Ouais,
qu'est-ce qu'elle a fait, Norimène? T'es-tu impliqué dans. Le jardin aussi?
Un ramenait l'argent, l'autre le dépensait.
Attends qu'on soit compté, Luc, pour dire des affaires de même.
Ouais, ben c'est ouais, comme
ça. J'ai juste dit c'était comme ça dans un couple.
Ah, ok, parfait. Cool.
C'est pas obligé. Regarde, dans le mien, c'est pas moi qui ramène l'argent.
Ouais, bon. C'est vrai. En ce moment, comment ça se passe, la Ligue?
La Ligue, depuis la cancellation de la saison, ça a été assez ordinaire au niveau des nouvelles. Tu sais, c'est plate de dire que, regarde, il n'y a pas de saison que dans la Ligue canadienne cette année. Puis même dans des situations de guerre mondiale, il y en avait eu. Donc, c'est pas le fun de réaliser ça. Tu sais, on a un des plus vieux trophées, je pense sinon le plus vieux trophée d'Amérique du Nord, la Coupe Grey.
Okay.
Qui a été disputé au fil des années, plus vieille que la Coupe Stanley. Tu sais, puis ça a passé au travers plein d'embûches puis de réalité sociale différente au fil des, du temps. Puis là, tu te ramasses que, bon, ben, on va faire partie de la première édition qui n'aura pas de Coupe Grey 2020, qui n'aura pas de nom écrit pour cette année-là. Fait que ouais. Ça te fait aussi prendre en considération l'importance que ça a, ce qu'on vit en ce moment à l'échelle internationale, puis les répercussions que ça a ouais. dans différentes sphères de la vie.
Clairement. Puis quand tu as dédié ta vie à ça aussi, toi-même, juste dans ta vie personnelle, là, tu
Ben, c'est sûr que le monde du football, le football en soi, tu sais, c'est, ça remonte à... Moi, j'ai commencé à jouer en 2002, mais tu sais, d'avoir une première année où est-ce qu'il se passe rien, puis d'être... je suis officiellement homme à domicile. Mm-hmm. J'étais à la maison, puis on faisait des réunions durant toute la saison morte sur qu'est-ce qu'on voulait faire cette année, puis qu'est-ce qu'on va faire, dans le fond, au point de vue de stratégie, XCO, et puis le personnel qu'on avait. Mais là, c'est comme tout a retombé, comme un paquet de points d'interrogation. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec les situations contractuelles de certains joueurs? Il va falloir se trouver à réévaluer toute notre équipe en termes de personnel, en termes d'âge, parce que tout le monde continue à prendre de l'âge, puis il n'y a pas eu de football cette année, donc on n'a rien à évaluer. c'est aussi bizarre ouais. que ça. Mais tu prends quand même une année de vie de plus. Fait qu'est-ce qu'on fait par rapport au dossier X, Y, Z des joueurs qu'on a en contrat avec nous actuels ou sinon les joueurs qui vont s'avérer être joueurs autonomes. Sinon, dans l'autre sphère complètement, tu as les joueurs recrues. Tu sais, parce que dans le fond, on a fait le repêchage l'année dernière, 2019. Il y a des joueurs qu'on a retranchés au camp d'entraînement. Puis on s'est dit, vous avez encore une année universitaire à disputer, allez la disputer. Fait qu'ils ont fait la saison 2019 dans leurs équipes universitaires respectives. Mais là, cette année, pour eux, il n'y a pas de football. Il n'y a pas c'est de football ça, pour la vague de repêchage de 2020 de cette année, des joueurs qu'on aurait pu évaluer au camp d'entraînement ouais. cette année, qu'on aurait peut-être gardé avec nous, qu'on aurait peut-être retranché. Puis, on a aussi, en termes d'organisation, un autre repêchage qui s'en vient. Fait qu'on va avoir probablement une vingtaine, voire même une trentaine de jeunes qui vont arriver pour le camp d'entraînement, puis il faut départager parce qu'il y a un nombre limite de joueurs qu'on peut inviter à un camp d'entraînement. Je ne sais pas comment la Ligue canadienne va s'ajuster par rapport à ce genre de scénario-là, mais on va devoir prendre des décisions rapides qui vont avoir un impact moyen, court, moyen et long terme sur l'organisation parce que le football, le talent canadien, c'est notre pépinière, puis c'est avec ça qu'on réussit à développer des clubs qui sont soit gagnants ou perdants. Là. Tu sais, oui, il y a des joueurs américains, puis un gros bassin américain à évaluer également. Mais il reste que quand tu regardes au point de vue historique, les équipes qui ont mieux constitué leur talent qui ont le mieux constitué leur équipe avec le talent canadien disponible, ben c'est les équipes qui ont le plus de chances de remporter les grands honneurs à la fin.
OK. Fait que dans le fond, vu que c'est une structure verticale qui est habituée de rouler de même depuis toujours, ben là, de prendre un an de break, ça fuck complètement
le. Ah, mais je pense que ça fuck le monde athlétique, en fait. Là, je regarde le monde qui se préparait pour les Olympiques, puis je regardais, ouais. il y avait une vidéo de Léla Beaudoin, là, une boxeuse qui dit, tu sais. Un an de pause dans la vie d'un athlète, surtout à la boxe, tu sais, tu fais comme prendre un an à la boxe, là, tu vieillis 18 ans, là, tu sais, comme. Fait que non, mais c'est vrai qu'un an dans la vie d'un athlète, c'est pas comme. Moi, je fais comme. Bon, là, j'ai perdu 6 mois, mais tu sais, ma joke, elle va être encore bonne dans 6 mois, là, tu sais. Fait que. Ouais. Même encore là, des fois, non, mais tu sais, fait que j'ose même pas imaginer les recrues, là, qui rêvent de gagner leur vie de ça, puis qui font, ça sera pas cette année que je peux faire le camp d'entraînement. Hey, de rester motivé aussi pendant le temps d'arrêt, là. C'est
ouais.
tough.
Là. Ah oui, que, c'est pour certains, comme je dis, ça va faire quasiment 2 ans qu'ils n'auront pas joué au foot. Tu sais, quand tu es éligible au repêchage cette année, que tu n'as pas joué l'année passée, puis là, tu te présentes au camp d'entraînement l'année prochaine en mai, écoute, c'est énormément de temps sans pratiquer ton sport. Puis, j'imagine que c'est comme tout, hein, tu sais, mettons dans le monde de l'humour, t'as beau faire les jokes chez vous dans ton salon, puis les pratiquer, puis essayer de pratiquer tes punchs, tes gags. Tant que tu n'as pas été live, tant que tu n'es pas en train de performer, nous autres, c'est en milieu de compétition, de vraiment d'affronter des gens, d'affronter des équipes, de différentes défensives, différentes attaques. Tant que tu n'es pas en milieu compétitif pur et dur, tes opportunités de progression sont restreintes. Fait que tu as beau vouloir t'entraîner.
L'humour et le football, pas mal la même chose.
Là. C'est oh, pas mal okay. la même chose. Le parallèle est là. Il faut que tu sois sur scène parce que ton gag, tu vas le travailler. Puis, dans ta tête, c'est le meilleur timing que tu peux arriver. Puis là, tu arrives, tu le fais, tu fais comme non, ça n'a pas rentré. Pourquoi? Là, tu vas le refaire une deuxième fois, troisième fois, ouais. quatrième fois. Puis là, au bout de 10 fois, mettons que tu l'as fait en salle, j'imagine que tu dis bon, ben clairement, ça a plus rapport au admettons, au crowd, à la foule qui est là. Tu sais, ça a plus rapport à ça. Là, tu te dis, OK, c'est mal synchronisé, c'est mal fait, c'est mal effectué, mais il faut que tu le pratiques pour vrai. Puis c'est exactement la même chose au foot, tu sais. Tu peux être dans une salle, puis lever des poids, puis tu peux t'en aller sur un terrain extérieur, travailler ton jeu de pied. Il n'y a rien comme s'aligner un contre un adversaire que tu connais pas, tu sais, qui est pas un de tes chums, que tu connais pas, admettons, son éventail de moves qui peut te faire pour te faire travailler ta technique, que là, t'es comme absorption, réception, puis rétroaction, tu sais, en termes d'information, t'es pas dans ce contexte-là, donc tes possibilités de progression sont très limitées, là. Puis ça, je trouve ça dommage pour la jeunesse parce qu'une carrière moyenne dans les Canadiens, c'est encore 3 ans à peine, là.
3 ans?
Ouais. Fait que si on est dans le canot des 3 ans, puis que t'as déjà manqué ta première année, puis que les équipes sont forcées de t'évaluer extrêmement rapidement pour savoir s'ils te gardent avec l'équipe ou s'ils vont avec un autre jeune joueur, un autre jeune talent, ça va faire des meetings, je pense, des meetings d'entraîneurs et de directeurs généraux, puis d'organisations qui vont brasser pas mal parce que, tu sais, si t'aimes un joueur, puis que c'est, là, ça tombe entre lui et lui, on te force à faire un choix, c'est pas le fun. Tu sais, c'est pas la façon dont ça procède de façon conventionnelle, là. Fait que j'ai hâte de voir comment la Ligue canadienne va s'ajuster par rapport à ça.
Ça va forcer à être cruel sans le vouloir.
Ouais. Ah, puis je pense aussi à des joueurs, tu sais, je pense, moi, c'est sûr que mes premières pensées vont aussi comme John Bowman, qui est un joueur, un atelier défensif que ça fait 13 ans, je pense, ça aurait été sa 13e ou 14e saison avec l'équipe cette année, que la saison est cancellée, puis John, moi, j'ai 37, fait que John a 38, tu sais, 38, 39 ans, joue au football sur la ligne, c'est... tu sais, on sait qu'Anthony Calvillo a joué avec nous, je pense, jusqu'à l'âge de 40 ans ou 42 ans, peut-être même.
Ouais, mais il a eu son premier contact à l'âge de 39, là. Fait que, tu sais, ça, c'est correct.
Ouais, c'est ça. On est pas dans le monde des, mettons, des 38, 40, 45 répétitions par rencontre. Puis en plus, les pratiques, tu sais, que même si on prend soin des joueurs, on prend soin de la condition physique, on veut s'arranger pour avoir les joueurs qui sont disponibles la journée du match en étant le plus frais possible. Il faut quand même que tu fasses ces répétitions-là durant la semaine, puis il faut que tu travailles ton timing, puis quand tu as 39 ans, te remettre d'un bobo, bon, du coup, je sais, moi j'en ai 37, je sais pas encore combien que ça à 39, mais à 37 ans, tu sais, des fois, si je me lève trop rapidement, c'est risqué. je me lève debout, puis là, je fais « Oh, OK, ouais, ça, c'était... » J'ai agi comme un jeune, là. Non, mais c'est des blagues, mais...
Ouais, je comprends, mais il faut que tu t'adaptes pareil, là. Je veux dire, le nombre d'abus là, que vous prenez sur votre corps dans ce sport-là, ça n'a aucun bon sens, là.
Ben, c'est pas naturel, mettons. C'est pas naturel. Je connais personne qui, par loisir, se dit « OK, je vais me donner 5 verges d'élan, je vais rentrer dans quelqu'un pour le fun, parce que j'aime ça faire ça, puis je vais le faire 39 fois dans une journée, 40 fois dans une journée. » C'est pas naturel.
Qui explique que tu es rentré dans la ligue à 6 pieds 3 puis que tu es sorti pas à ce grandeur-là aussi.
Ah, je suis 5 pieds 9. Non.
Mais sans joke,
je pense que
t'as fait une discopathie dégénérative, fait que t'écrases les 10, que maintenant, c'est comme un Réo, là, le crémage, il sort à chaque barre, puis t'as mal au dos quand tu lèves du divan. C'est ce qui se passe.
Ah, c'est mais ça, c'est des poignées d'amour.
Ouais,
c'est Oreo, c'est ta crème d'Oreo qui est rendue.
All right.
Mais il y a des opérations pour ça. Je pense qu'à Star, ils peuvent te remplacer par des disques en titane, je me trompe pas. Là. Tu peux, si jamais tes disques qui commencent à se souder parce qu'il n'y a plus rien, puis t'es comme. Pour les
athlètes. Des fois, ils font des fusions aussi.
Ouais.
Ouais, les fusions vertèbres. Non, à date, je pense pas que j'en ai besoin. Là. Je trouve que ça, globalement, en fait, je me sors très, très bien de ma carrière. Tu sais, j'ai eu un genou qui a été bien abîmé. J'ai passé au travers de la chirurgie, puis j'ai fait la réhabilitation, puis je suis revenu au jeu. Tu sais, j'étais capable de disputer une saison complète en 2017 comme centre partant. Fait que, tu sais, je suis content. Tu sais, j'ai réussi à continuer ma carrière pendant un bout de chemin. Pour un gars qui se blesse à l'âge de 32 ans dans du sport professionnel, une blessure majeure, c'est rare que des organisations te laissent énormément de temps pour en revenir. Fait que je dois toujours être reconnaissant de ça.
OK, fait que carrément, ils te laissent le temps parce qu'ils ont d'autres options, puis les autres, il faut qu'ils continuent d'avancer.
Ah, oui. Ben oui. Puis dans le contexte canadien...
Ouais, vas-y, excuse-moi, Luc, vas-y.
Ouais, dans le contexte du football, en général, ça n'a même pas rapport au... Quoique la NFL s'améliore énormément, parce que maintenant, il offre, quand on voit des nouveaux contrats qui arrivent, ça dit tout le temps, mettons, un 70 millions, dont 45 garanties, des trucs comme ça. Fait que dans la NFL, au moins, les équipes peuvent passer à un autre appel si le joueur est blessé, mais il y a quand même une responsabilité financière qui va suivre la décision. Okay. Dans la Ligue canadienne de football, c'est pas le cas. Tu peux signer un contrat de 3 ans, puis le lendemain, ils trouvent une meilleure option, puis la répercussion ouais. financière pour l'organisation est nulle, en fait. Ça n'a aucune répercussion. T'es libéré, puis t'es sur le marché des joueurs autonomes, puis en contexte canadien, ben, tu peux faire ta demande de chômage, là, ouais. si t'as fait des semaines de travail. Donc, non, mais c'est la réalité du football canadien.
C'est ça qui est tough de faire, hey, moi, je vais avoir dédié comme 10 ans de ma vie, mais je vais sortir de... Je sais pas. Je trouve ouais. ça... Mais je trouve... C'est un peu ça le cycle du sport aussi, surtout au football canadien, parce que moi, Luc, si les gens savent pas, c'est genre un de mes meilleurs amis depuis le primaire. Mm-hmm. Fait que j'ai vu sa carrière, qui a tout commencé grâce à moi, d'ailleurs. Non, mais...
Luc, il me poutait. Quand j'étais petit. Pour pouvoir prendre soin de ton ami si jamais il était blessé.
Tu ris, mais tout notre entourage, on est dit en santé, ce qui est un peu drôle quand même. Oui. Mais l'histoire est que, tu sais, quand tu es arrivé dans le Rouge et Or en 2004. C'est l'histoire d'un gars, mais lui, je pense même pas qu'il s'est blessé, je pense que c'est le cancer, là, tu sais, qui l'ont enlevé, puis toi, t'es rentré partant à cause de ça, là. Je sais pas,
au début de la saison, il y avait une blessure, et puis vers la fin de la saison, en effet, Dominique Picard avait eu un cancer, et puis il avait été retiré de la formation pour pouvoir suivre les traitements. Puis ça me donnait la porte pour devenir un joueur partant. Puis je suis tombé vraiment, j'étais arrivé avec le Rouge et Or à ma première année comme joueur partant. Quand mon bagage de football était quand même très, très limité. Là. J'avais été à Saint-Jean-sur-Richelieu de 2001 à 2003. Puis j'ai commencé à jouer au football. Puis dans le fond, je connaissais même pas les règlements. J'écoutais pas ça. C'était pas un rêve d'enfance. J'étais pas un gars qui s'entraînait non plus. Point de vue physiologique, physique, tu sais, j'étais déjà un gars de 300 livres. Là. Fait que, tu sais, j'étais pas, c'est pas comme si j'étais parti puis que j'avais eu à construire un physique qui m'a permis d'évoluer là-dedans. Mais j'ai commencé, puis j'ai tout le temps, tu sais, Guillaume, on était au primaire ensemble, puis j'étais tout le temps été pas mal d'un plus gros, là, tu sais, pas nécessairement gros.
Mais actif,
mais actif, tu sais, ça, j'étais capable de me déplacer, là.
C'est ça, parce que, tu sais, on était au secondaire, puis il était dans le cours. Le ED, là, tu sais, qui était éducation physique, mais tu avais des périodes de plus. Puis en ED, ben, il faisait genre des courses, là, des 10 km, puis tout. Puis Luc, il faisait, là. Fait que c'était comme le gars le plus en forme pour sa shape, en fait, tu sais, malgré toute la masse. Fait que c'est pour ça quand il est arrivé au cégep, étudié en électronique, puis ils ont fait, hey, toi, peut-être, si tu rentrais dans d'autres gars, là, t'aimerais peut-être ça, puis il a fait, OK. Puis moi, je suis allé faire le camp d'entraînement à ma dernière année de cégep, parce que Luc, il restait une année. Saint-Jean,
c'est Richelieu. Saint-Jean, oui, OK, c'est vrai.
Ouais, Luc est allé faire son cours là-bas, puis je suis allé faire le camp d'entraînement pour la dernière saison à Luc, puis quand je suis arrivé, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, être receveur. Puis ils m'ont dit, tu vas être bloqueur de receveur, j'ai fait. Je ne reviendrai plus jamais. Fait que j'étais allé à une pratique, mais j'avais trouvé ça le fun. Le pire, c'est que j'avais trouvé ça le fun.
Mais pourquoi tu ne voulais pas être bloqueur de receveur?
Ah, j'ai toujours été receveur dans ma tête. Non, mais.
Je ne connais pas assez le football. C'est-tu essentiellement le même travail de. Tu es rapide, puis tu chasses un
gars? Je pense que les deux sont rapides, mais je pense que, tu sais, il y en a un que c'est plus faire des contacts, puis l'autre, c'est d'essayer de les éviter. Là, le receveur, le but. Puis les receveurs, parce que moi, je sais que je cours quand même, ben là, peut-être plus là, mais je courais relativement vite. Mais les receveurs, là, ils devaient avoir un 2-3 pouces de plus grand que moi. Là. J'étais impressionné par leur rapidité. Puis en plus, tristement, puis c'est pas pour insulter Luc, mais l'équipe de Saint-Jean, c'était genre les moins bons de la ligue parce qu'ils avaient monté d'un niveau, fait qu'ils tombaient. T'sais, ils étaient comme dans le 2A, puis ils sont montés dans le 3A. Fait que là, ils sont tombés. T'sais, dans le 2A, ils brûlaient la ligue. Puis dans le 3A, ils étaient les moins bons. Fait que j'étais comme avec les moins bons. Ben, c'est pas vrai parce que ça dépend. Là, c'est toute l'équipe. Mais il reste quand même que, tu sais, j'étais vraiment impressionné par les receveurs contre qui j'ai joué. Puis, fait que la pratique, je l'ai faite comme bloqueur de receveur. Puis, les gars m'haïssaient déjà parce que vu que je comprenais pas, je faisais des affaires qu'il fallait comme moyen faire, mais je leur empêchais quand même d'avoir le ballon, puis il était un peu insulté. Je me rappelle, il y a un gars, il l'a pogné, puis j'ai comme tapé sa main, puis il l'a échappé, puis t'es comme, tu m'as tapé sa main, je fais. Là, j'ai regardé, puis le coach, je fais comme, c'est correct. Tu sais, comme, j'apprenais. J'ai juste fâché le gars. Ouais, c'est okay, ça, mais j'avais le droit. De faire ça? Ben, j'imagine là, que tu peux taper sa main, les gars se rentrent dedans à 300 km/h. Ouais. Mais...
okay, ouais. T'as le droit au moment où est-ce que le receveur arrive pour mettre les mains sur le ballon, t'as le droit de venir puis faire la tape, mais il faut qu'il y ait eu contact avec le ballon parce que sinon, au préalable, c'est une interférence. T'as pas le droit nécessairement d'effectuer ce mouvement-là. Mais quand tu connais rien au football, là, c'est, tu sais, puis veux pas, c'est pas ancré dans les mœurs du Québec depuis des centaines d'années, ou de 70 ans, 80 ans, avec une culture de championnat comme, mettons, le hockey l'est ici au Québec, là. Tu sais, on connaît nos anciens joueurs, même les joueurs de quand moi j'étais jeune. Maintenant, je suis plus ben le hockey, là. Mais, tu sais, je sais que, tu sais, je connais un peu, tu sais, je connais le règlement, puis je connais aussi la façon dont se joue le hockey. Je connais les positions, tu sais, on comprend l'importance du gardien de but, de la défensive, tu sais, des attaquants. Mais quand tu arrives au football, tu comprends rien, c'est bon, premièrement, tu sais, pour la vaste majorité des gens, c'est de s'asseoir puis de lire le livre des règlements. Parce que sinon, tu sais, t'es déjà perdu, tu sais, de savoir comment fonctionne un match. Mais après ça, quand tu rentres dans une technicalité d'une position, là, écoute, tu commences à jouer au foot, c'est un paquet d'essais-erreurs, là. Moi, je me souviens la première fois que j'ai eu à bloquer un gars, tu sais, tu dis, OK, il faut que tu te mettes dans un trois points d'appui. Tu sais, trois points d'appui, si je te dis ça, qu'est-ce que tu vas faire?
Ben, moi, trois points d'appui, je sais, parce qu'en ergo, faut toujours que tu aies trois points d'appui quand tu rentres dans une machinerie ou quelque chose, parce que ça évite les chutes. Mais je comprends pour que le commun des mortels, ça ne dit rien.
C'est deux pieds. Trois points d'appui. Mais quand on te dit ça directement, de même, tu fais trois points d'appui. C'est quoi ça? Tu sais, comment
la, fait que là, tu la tête, l'épaule et la hanche.
Ouais, c'est ça. Twister.
Là, tu te dis, OK, il faut que tu empêches le gars devant toi de se rendre au corps arrière. Bon, c'est correct. Fait que, tu sais, go set up, tu te places. Puis, tu sais, j'ai juste pogné le gars avec comme un ours, puis je l'ai pogné, puis je l'ai foutu à terre. Là, tu sais, il s'est pas rendu. Ouais, t'as pas le droit de faire ça. Bon, OK, c'est quoi que j'ai fait de pas correct? Ben, on va commencer. Je vais te faire la liste. Là, tu te rends compte, OK, c'est, tu sais, le fameux football, là, que dans les jeux vidéo, tu sais, ils te mettent ça, ils les mettent, tu fais juste voir du monde qui se rentre dedans, puis toi, tu peux lancer la passe. Les technicalités, quand t'arrives, puis tu l'effectues sur le terrain, là, c'est...
Mais c'est un peu... L'autre chose que tu dis, tu sais, que, mettons, on retient le hockey, puis on connaît nos vieux joueurs, puis tout ça, c'est un peu ça aussi avec le football qui est, je trouve, déplorable, tu sais, puis encore là, moi, je suis devenu un fan de football canadien parce que Luc était là, mais depuis qu'il joue plus, je peux pas dire que j'ai écouté son année parce qu'il coachait, là. Mais j'étais là parce que la première année, il vivait chez nous. Fait que j'étais comme, et il venait de Québec, sa blonde restait à Québec. Fait que j'avais les billets de femmes des joueurs. Fait que j'étais assis dans le Wives Club avec les filles des Alouettes. Puis j'écoutais les matchs. Fait que c'est là que j'ai découvert un peu plus. Mais c'est pour ça aussi, je pense que dans ma tête, je voulais être receveur parce que je fais comme, je retiens. Les receveurs, tu sais, c'est eux autres les plus spectaculaires dans un match. Tu sais, la O-line, là, depuis que Luc jouait O-line puis qu'il était centre ou bloqueur, ou en tout cas, là, je suivais un peu plus c'était quoi, mais avant ça, à part Vercheval qui a été comme à radio pas à télé, j'avais aucune idée, je connaissais aucune de sa ligne, tu sais.
Maintenant, il a rendu fermé tardif. Évidemment, il a popularisé la chose, pas juste à moitié, en se faisant un poste avec les Chiefs de Kansas City puis en remportant le Super Bowl. Puis, écoute, c'était extrêmement impressionnant son résumé, là, tu sais, qu'est-ce qu'il a accompli son parcours jusqu'à présent. Là, c'est exceptionnel. Mais ça donne aussi une belle fenêtre de visibilité à la position parce qu'antérieurement, tu sais, les gens, ils connaissent, ils arrivent à reconnaître les joueurs, mettons, qui ont été des joueurs de ligne. Souvent, ces joueurs-là réussissent à se faire reconnaître, mais par, le post-carrière, l'après-carrière, ce que les gens, les joueurs de football sont parvenus à accomplir comme carrière, post-sportive.
Parce que, tu sais, un receveur, c'est ça, c'est très... l'espèce de... Le win, il est facile à voir, tu l'as attrapé, tu sais, fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui est clair. Quand t'es QB, tu lances, tu sais, t'as fait un bon lancer, c'est facile à comprendre, mais effectivement, quand t'es dans le micro-détail de... sur les lignes puis tout ça, c'est dur à grabber pour quelqu'un.
Ça, les gars, de tu sais, tout ce qui se passe. Même après, je me suis mis à plus checker la défensive. Tu sais, comme Étienne Boulay, là, que nous, on connaît parce qu'il est rendu à TV, mais ce n'était un bloqueur de receveur. Tu sais, il était quick, mais il était petit. Fait que tu sais, tout ça, comment c'est pas Cox?
Chip Cox.
Chip Cox,
un de mes meilleurs coéquipiers. Ouais, ouais, Chip.
Lui, là, il était impressionnant à avoir joué puis bloqué. Là, fait que tout ça, ça apprend à admirer encore plus le sport. Le football, c'est, il y a tellement. Tu sais, tu peux triper sur une position pour faire moi, je trippe sur le carrière. Là. Moi, il n'y a rien d'autre que. Voyons, comment il s'appelle Brady, tu sais. Mais après, si tu regardes plus loin que le gars qui tient la balle puis qui la lance, tu te rends compte que. Mais tu te rends compte qu'il est important quand tu regardes les Pats aujourd'hui, là.
Moi, je me demandais, c'est-tu frustrant? Frustrant, c'est peut-être pas le bon mot. Mais tu sais, à chaque année, il y a le Super Bowl. Puis là, à chaque année, là, tout le monde en parle puis tout le monde le regarde. Mais. C'est juste parce que c'est le Super Bowl. Fait que t'as plein de monde qui regarde ça, qui savent pas ce qu'ils regardent, ils comprennent pas trop. Puis là, tout le monde en parle, tout le monde chiale. Puis quand t'es dans l'univers du football, puis que t'écoutes tout le monde, as-tu le goût des fois de faire « Hey, fermez vos gueules, là!
» Non, ça m'est pas arrivé encore parce que vraiment, la beauté de ce sport-là, ça apporte tellement là, le football. Tu sais, regarde, juste le fait qu'un paquet de gens totalement pas intéressés par ce sport-là se réunissent puis vivent un événement familial, un événement d'amis, tu sais, qui prennent le temps de se mettre ensemble. Souvent, tu sais, moi, j'en ai fait des parties de Super Bowl chez nous, là, puis je peux te dire, j'ai jamais écouté le match. Tu sais, parce que t'es à droite, à gauche, tu parles avec tes chums, puis là, tu sais, le lendemain, t'es comme, qui c'est qui a gagné, finalement? Tu sais, le happening fait en sorte qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces journées-là qui est totalement positif. Fait que, de se faire parler de football, puis que des gens peuvent aussi, des fois, t'es le gérant d'estrade qui est capable de tout régler les problèmes en deux temps, trois mouvements. Écoute, ça aussi, tu sais, moi, je trouve que ça, c'est du positif parce que ça veut dire qu'il y a un intérêt, tu sais, il y a quelque chose, ça vient te chercher en dedans, fait que tu veux essayer de communiquer, toi, ce que tu ressens, puis comment tu corrigerais la chose. Fait que moi, j'ai jamais pris ça de façon négative. C'est sûr que ça fait des discussions, des fois, qui peuvent
animé.
Comment dire, retarder la durée de temps de faire une épicerie. quand tu rencontres quelqu'un dans le rang d'épicerie, des fois, ma femme me fait juste « Salut! » Puis là, j'ose, puis je m'en vais rejoindre, elle est rendue 5 rangées plus loin, bout dans le toupette avec les 3 gars. Mais tu sais, c'est une beauté, là. Je suis choyé, je suis privilégié de pouvoir vivre ça, tu sais. Puis le football, en tant que tel, en soi, tu sais, regarde, nous autres, la Ligue canadienne, cette année, on avait fait une demande de financement ou d'une aide financière de la part du gouvernement fédéral pour pouvoir procéder à la saison. Puis, tu sais, quand je regarde, moi, mon cheminement personnel, est-ce que j'aurais été un étudiant universitaire? Est-ce que j'aurais été à l'université si ça n'avait pas été du football? En fait, je ne sais pas. Tu sais, je faisais mon deck en électronique, puis est-ce que je serais allé à l'ETS par la suite? Qu'est-ce que, tu sais... Je ne sais pas qu'est-ce qui se serait produit, mais je peux te dire que le cheminement intellectuel de dire « je vais aller à l'université », ça s'est concrétisé seulement et uniquement lorsque j'ai commencé à jouer au football. Commencé à jouer au football, j'ai fait ma première saison, j'ai fait ma deuxième saison avec les Géants, puis là, il s'est ouvert une fenêtre. Les recruteurs de l'université canadienne m'appelaient, puis tu sais, dans le fond, les coachs en chef, plus particulièrement. Mm-hmm. « Ah, on aimerait ça t'avoir dans notre équipe. » Fait que là, j'ai entamé mes visites de l'université canadienne, puis j'avais été en Saskatchewan. J'ai pris le temps vraiment de visiter tous les gens qui m'avaient appelé, puis j'ai pris ma décision. J'ai été avec le Rougeard de l'Université Laval, mais est-ce que je pensais faire un bac en administration puis ensuite faire la maîtrise en finance? Non. Et c'est ce que je réalise maintenant avec les années, c'est l'impact financier pour notre société qu'a le football. Juste le fait que tu es obligé d'avoir une éducation universitaire pour pouvoir... aspirer à devenir ce que tu rêves d'être depuis que tu es tout petit. Si tu es un joueur de football depuis que tu es tout petit, puis tout le temps, c'est ce que tu voulais faire, tu as été forcé d'être consciencieux par rapport à ton cheminement scolaire. Tu pouvais pas faire semblant que ça dérangeait pas.
C'est une grande qualité du football, ça.
Ouais. Exactement. Fait que moi, quand je regarde la NFL, que je regarde la Ligue canadienne, que je regarde le circuit universitaire américain, la NCAA, les jeunes, tu sais, les gens disent, il y en a qui disent, ah, les gars, ils ont leur diplôme dans une boîte de Cracker Jack, si on veut, là, ils vont aller à l'école. Non, moi, c'est des jeunes qui ont été à l'université, qui ont étudié, qui ont fait leur cours. Ils ont été peut-être extrêmement aidés pour y parvenir. Ça se peut qu'il y ait des programmes américains qui fonctionnent comme ça, mais je peux te dire qu'au Canada, tous les gars que j'ai rencontrés, c'est des gars qui ont travaillé fort pour obtenir leur diplôme. Donc, je me dis, l'impact financier du rêve de la Ligue canadienne de football, même si ça ne dure pas longtemps, même si ce n'est pas des salaires qui vont te permettre de dire « Je suis millionnaire, j'ai gagné ma vie. » À titre d'exemple, je ne ferais pas mes rénovations moi-même si j'étais multimillionnaire.
toi, c'est fini.
Non, mais c'est ça, c'est ce qui est fini. Mais non, regarde, je me dis l'impact financier que ça a sur notre société. C'est un paquet de jeunes hommes qui avaient peut-être un potentiel de décrocheur ou peut-être un potentiel de maîtrise ou de doctorat. Ça ne dérange pas, mais la fibre qui est présente, qui les habite, de dire « j'aimerais ça jouer au foot, j'aimerais ça devenir un joueur de football professionnel, même si ça ne dure pas longtemps », ça t'a emmené beaucoup plus haut. Tu sais, si on le met en perspective, puis tu deviens une personne qui contribue encore plus financièrement à ta société. Là.
Ben c'est cool. Puis tu prépares ton après-carrière aussi. Là.
Fait que, ben oui. C'est l'après-carrière.
Le hockey n'a pas ça, là, vraiment honnêtement. Là, c'est... La structure du hockey au Québec n'est pas faite en fonction... L'importance de l'école n'est pas super énorme dans cette structure-là. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix assez relativement jeune entre « je vais vouloir pousser dans le hockey » ou je vais falloir que...
Je pense que tu peux être drafté à 18 ans aussi. Je ne sais pas à quel âge au football tu peux être drafté. Là, mais...
Le repêchage de la Ligue canadienne, en tout cas, c'est le minimum acceptable, c'est 3 ans d'éducation universitaire. Pourquoi? Parce que si le jeune a terminé son bac en 3 ans, si ses études sont terminées puis qu'il veut être disponible pour aller jouer dans la Ligue canadienne, bien, il a déjà son diplôme. Donc, ce ne serait pas pertinent de dire « OK, tu as le potentiel, athlétiquement parlant, tu as tout ce qu'il faut pour jouer au niveau professionnel ». Viens-t'en. Mais ultimement aussi, tu sais, Guillaume, un jeune de 18 ans là, qui voudrait jouer au football professionnel dans les Canadiennes, là, je m'excuse, mais la maturité physique, là, juste de te présenter sur le terrain versus un homme mature de 32 ans dans son pic athlétique, puis là, t'as le jeune. Tu sais, au hockey, un gros joueur pèse 235 livres, 240 livres, puis c'est un Bifouglien ou un Chara, tu sais, 240 livres. Quand t'es sur un terrain de football, puis t'as 18 ans, là, puis que, tu sais, mettons que tu pèses 220 livres, que tu n'es pas physiquement mature, puis là, tu te pognes contre un gars de 250 livres qui est à son prime athlétique, qui en vient de pleine vitesse. Là. Les répercussions
peuvent être... C'est pour ça que je dis ça, tu sais, puis c'est pour ça qu'au hockey, quand tu dis qu'ils prennent des décisions jeunes, je ne sais pas, en termes de formation, par exemple, c'est quoi qu'ils ont besoin. Là. Je pense que les gars ont un minimum, mais encore là, je ne sais pas, tu sais, parce que c'est... Là, nous, on parle de football canadien, mais je ne sais pas ce qu'ils font avec les universités américaines et le football américain, mais tu sais, parce que les équipes russes, je ne sais pas leurs joueurs de hockey s'ils sont éduqués ou s'ils jouent au hockey, puis c'est ça leur. Je ne sais pas s'ils commencent à être payés dès le jeune âge pour jouer au hockey.
Je ne sais pas non plus. Il faudrait que je check.
Mais... C'est une grosse technicalité, là, mais ici, comme un truc d'exemple, un jeune qui va dans la Ligue junior majeure du Québec. N'a plus le droit de recevoir de bourse de la part d'une université américaine. Il aurait le droit d'aller jouer ici pour une université canadienne, mais ne pourrait plus être boursier parce qu'il a déjà été rémunéré, fait qu'il est considéré comme étant professionnel. Tu sais, c'est un concept bien fondamental, très, très important de distinction entre la Ligue junior majeure du Québec puis la NCAA aux États-Unis. Donc, tu sais, comme bon, Louis Leblanc qu'on avait repêché ici avec le Canadien de Montréal, mais qui a décidé d'aller faire, tu sais, que je crois qu'il était à Harvard, si ma mémoire ne fait pas défaut. Il était à Harvard. C'était super pertinent et intelligent de sa part de dire, OK, avant d'aller dans la Ligue junior majeure du Québec, je préfère aller dans la NCAA, tu sais, aller me chercher des cours ou comment entamer un diplôme universitaire. Puis si vraiment je vois que ça débloque puis que j'ai une chance professionnelle, bien, je peux aller dans la Ligue junior majeure du Québec pendant... une, deux saisons, puis ensuite soit aller dans le club junior professionnel ou l'équipe professionnelle en soi. Donc, tu sais, en termes de cheminement, c'est quand même assez intelligent ce qu'il a fait, là. C'est très intelligent, mais ça comporte ses risques aussi. Tu sais, t'as pas le même bagage d'expérience qu'un jeune qui joue 82 matchs par année dans la Ligue junior majeure du Québec.
Oui, parce que Louis Leblanc, c'est comme le pire exemple à donner dans le sens de jouer dans la Ligue nationale.
Comment dire, peut-être dans sa vie personnelle, ça a été super bénéfique, là, mais c'est sûr.
Non, je sais, je dis pas que le gars est malheureux, mais j'ai pas souvenir de lui dans l'uniforme du Canadien à part une fois, je pense.
Ben, ouais, je pense. Ouais. Mais tu sais, Max Pacioretty a décidé d'aller dans un collège américain. Il aurait très bien pu aller jouer dans une
équipe. Un autre mauvais exemple de joueur du Canadien dans ce sport. C'est un excellent joueur.
Il a bien gagné sa vie avec le sport, je pense, puis il joue encore.
Oh, ouais.
Oh, ouais, ça va. Mais toi, Pinot, j'allais dire, Pinot, tout ton sport, c'était le water polo. Je sais pas.
Yep.
C'était ton main sport à toi.
Ben, mon main sport, attends un petit peu. Quand j'étais jeune, quand même, mon main sport, c'était le hockey. Puis à un moment donné, je faisais les deux en même temps. Puis mon père m'avait dit là, c'était même pas en termes d'argent parce que le water polo, pas de joke, ça coûtait 65$ par session. Mais tu sais, comme session, qui était la session d'automne puis la session d'hiver. Fait que ça coûtait 130$ pour l'année. Puis moi, je me rappelle, le meilleur compteur, sa session était gratis. Fait que je m'arrangeais juste à être meilleur compteur. Fait que ma première année m'a rien coûté. Fait que quand mon père m'a dit, là, il faut que tu choisisses entre les deux, c'était plus, je pense, on est allé en esti d'aller t'amener à la piscine, puis à l'aréna, puis à la piscine, puis à l'aréna, puis tu sais, c'est pas ça notre vie. Fait que j'avais été super triste, moi, d'arriver, puis oui, dernière année, puis on m'avait descendu d'un niveau. Parce que j'étais pas capable de faire de slap shot, je patinais super vite, mais j'étais pas capable de faire de slap shot. Fait qu'il m'avait dit, tu sais, en défense, on a besoin de quelqu'un qui fait des slap shots. Fait que il m'avait descendu d'un niveau. Je me rappelle encore le téléphone. Ouais, on aimerait ça parler à Guillaume. Et puis là, c'est les coachs qui t'annoncent. Puis tu sais, j'ai 12 ans, 13 ans. Là.
Ouais,
je me rappelle de dire, c'est à ce moment-là, j'ai dit à mon père, je veux plus jouer au hockey. Puis j'ai fini cette année-là, j'allais jouer quand même. Puis après ça, j'ai commencé à jouer au water polo.
Mais je tiens à dire que tu as appris à faire des slap shots.
Ouais.
Mon poignet et mon dos et mes ribs en sont témoins.
Ben, ouais, il manque encore la précision, mais ça, je me dis, j'ai encore une couple d'années avant d'être drafté. Là,
ouais, fait ouais. Que... Mais on avait joué, mais on a joué, je pense, quand on pouvait jouer l'année passée, ou il y a quelques mois, là, justement, que ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisé sur la glace, puis là, genre, tu faisais des shots de partout. Ah oh, ouais, tabarnak, ça fait mal.
Je sais, puis au Cosam aussi, on m'a dit que j'avais une pas pire shot quand je faisais un slap shot. Donc, ouais.
Nice.
Mais là, pour parler du water, le water polo, j'ai joué un peu, puis moi, c'était... pour vrai, je pense que c'est le sport le plus violent qui existe sur la planète.
Mais ça a l'air, ça pour jouerait vrai, dans le l'eau, là.
Ça bat la MMA, selon moi. Tu sais, puis
non. Là, c'est ici que je vais t'arrêter, là, parce que...
OK, c'est bien ça. Je t'explique, quand tu manques d'air et tu t'en vas en dessous de l'eau, là, ça, c'est ce que j'appelle de l'instinct de survie qui embarque assez rapidement. Puis là, tu sais, tu nages, tu essaies de nager le plus vite que tu peux, puis là, le joueur en arrière de toi pour, admettons qu'il n'est pas capable de te rattraper, il va prendre une faute. Fait que là, il arrive, il nage par-dessus toi, puis là, il fait semblant qu'il ne te cale pas, là, mais il tient un peu plus que tu veux en dessous de l'eau. Puis là, il fait « Ah, non, tu sais, puis là, l'arbitre,
il y a un peu
si on veut. Mais manquer d'air en dessous de l'eau, là, puis te sentir comme ton cœur, comme le bout de critique, là, que tu dis, hey, je suis en train de me nailler, là. Ben, ça, tu le vis au water polo, puis encore pire quand tu joues contre des filles, dans du water polo mix. Là, tu te fais graffiner, tu te fais tirer ton maillot, fait que là, tu t'es pas.
Mais les filles vivent du water polo pire que les gars, honnêtement. Moi, j'adore autant aller voir des matchs de water polo féminin. En fait, je trouve que les filles sont plus gracieuses dans leur jeu puis tout ça, puis c'est plus précis. Mais les autres, ils ont plus de grip. Ils ont plus de grip de maillot, tu sais. Les bretelles, tout ça, ça se... Non, mais moi, water polo, là, man, j'ai vu des choses là que j'ai, tu sais. Je l'ai même pas vu, puis cette histoire-là, je la compte comme si j'étais là, mais j'ai un de nos coachs qui nous a raconté qu'un des joueurs les plus violents de son expérience est arrivé à la mise au jeu. Puis, en fait, quand il y a un but au water polo, tout le monde revient au centre. C'est une ligne. Les cinq joueurs se placent en ligne. Puis le joueur prend le ballon puis il donne souvent à un joueur en arrière ou au goaler. Puis au lieu de prendre le ballon, il a pogné les nœuds du casque de water polo de l'autre gars. Fait que tu sais, une fois que t'es pogné par ici, là, t'es comme plus vraiment de manœuvre, là. Et il l'a connecté 13 fois. Bang, 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 bang. Fait que ça, là, c'est beaucoup de violence à hauteur de la surface de l'eau.
Mais voyons donc.
Non, c'est violent. Moi, j'ai vu un gars se faire casser l'os zygomatique, là. Il est sorti avec l'os de la joue pété, là. Ça prend un bon... Parce que faut que tu penses tout le temps que... C'est comme des forces, là, tu sais. Luc, il y a des contacts casque à casque. Mais mettons, tu t'en viens en nageant super vite, puis quelqu'un te descend un coup de pied dans la face, tu le reçois en plus à contre-courant, là. Ouais. Fait que des coups de pied dans la face, des coups de coude.
Tu forces contre son pied en plus, puis lui, il force
ouais. Son ouais. Ça te ralentit, ça te je sais pas, ramène la colonne. Ouais, ouais.
Moi, c'est un sport, tu sais, Guillaume peut en tester. J'ai pas joué très, très longtemps. J'ai joué juste pour le fun en été, là, puis je trouvais ça. Écoute, moi, juste nager, déjà, c'est une tâche. On dirait que je cale comme une roche. Puis, tu sais,
c'est ça, je me demandais.
Ouais. Je suis déjà en mode survie au début de la game. Puis là, tu tombes essoufflé en plus, puis il y a quelqu'un qui t'embarque sur le dos, prendre une faute parce que tu as un petit peu le ballon 2 secondes. J'ai vraiment pas trippé. C'est un des sports vraiment que, moi, dans ma tête, là, c'est resté ancré. Là, c'est un sport vraiment violent. Mais que tu sors de là, tu sais, que t'es pas, comment dire, t'es pas courbaturé autant que ça. Tu sais, c'est pas comme de dire, hey, il faut que j'ai fait un water polo, ça me prend un mois et demi m'en remettre, mais c'est plus genre, hey, ouais. Je pense pas que je vais me layer, là. Ah ouais. Je pense pas que je vais me layer. J'ai vraiment senti comme la fin.
Ben, l'énergie, je pense, à juste rester, en fait, la tête en dehors de l'eau, c'est que tu nages tout le temps, t'es constamment en mouvement.
Ouais, mais la nage sur place, à un moment donné, c'est ça, c'est que l'affaire, là, le monde dit ça, c'est du 12 pieds partout, puis tout. Oui, mais à un moment donné, vient que, tu sais, t'as des nages comme de repos, puis t'as des... Le surplace, c'est pas ce qui tue. Là. Ce qui tue, c'est quand tu as le ballon puis quelqu'un t'embarque dessus ou qu'il y a du combat un contre un. Puis nager avec le ballon, veux pas, là, si tu t'en en échappé, là, un breakaway, là, c'est sûr que tu donnes tout. Là. Mais sinon.
C'est quoi, tu le mets ici, puis là, genre, tu nages.
Même pas, c'est que avec les coups de brosse, ça va créer une vague qui fait que le ballon reste toujours au milieu. Là,
OK.
Il, de temps en temps, il te colle dans la face, là, mais sinon, la façon que tu nages, c'est le courant qui fait avancer le ballon. Pour vrai, c'est un des plus beaux sports. Au monde, j'ai adoré ça le pratiquer. Ça fait longtemps là, tu sais, que j'ai pas joué, mais c'est tellement hot. Puis, tu sais, je me rappelle que c'est une autre affaire que mon coach m'avait dit. Peu importe la shape que tu as au polo, tu sais, il y a des gars de ta shape, PB, il y a des gars de la shape de Luc, il y a des gars de. Tu sais, c'est sûr que c'est moins de la shape de Luc, ça prend plus quand même. C'est souvent élancé, mais il reste quand même que rendu au polo, c'est juste la tête qui sort de l'eau. Fait que la shape, on s'en crisse un peu. Puis c'est impressionnant des fois. Moi, mettons, Luc, je sais pas si tu te rappelles, mais William Brion, qui est le frère d'un de nos bons amis, Hugo, là. Tu sais, Will, là, c'était, il avait ta shape, mais PB, mais probablement plus maigre, tu sais.
OK, ça reste, moi, il y a 10 ans.
Ouais, genre ça, mais reste un des meilleurs joueurs de water polo que j'ai vu de ma vie. Il y avait tellement des feintes, mon gars, là, il faisait mordre tout le monde. Puis ce qui est hot quand tu fais une bonne feinte au water polo, c'est que le monde dégage pour sortir de l'autre bloqué. Fait que tu tires quand ils redescendent. Fait que ça, là, tu le vois. Je me rappelle une fois, là.
Comme un bloc au volleyball.
Exact. Il feinte, tout le monde sort, il se retourne, il nous regarde au vent. Il a pris le temps, dans le temps que les gars dans les airs, de nous regarder en faisant un petit gang d'épais, puis il a crinqué dans le but, ça, là. C'est magique, ça.
Ah, c'est okay, le fun. Ouais. Ah, ce feeling-là, bon, je le vis, moi, c'est le volleyball, mon sport, là. Fait que ça, c'est le truc que je vivais exactement, de juste arriver, fake. Là, tu sautes. Fait que juste le two-step là, qui fait que tout le monde saute. Là,
que tout le monde mord, ouais, c'est ça.
T'es croise en montant. T'es comme salut les chums.
Ouais. C'est exactement ça. Ouais.
Ben ouais. Mais ça m'impressionne, moi, ce sport-là me terrifie pour les mêmes raisons que Luc. Là, de tout en dessous de l'eau, l'espèce de survie. Là, t'es comme, hey, ça va. Là. Nous autres, au volleyball, il y a un filet qui nous sépare. Là, on n'a pas le droit de. Je peux pas varger sur l'autre, je peux pas le tirer par en bas. À la limite, je peux épiler sur le pied en sautant au bloc, là, puis genre, je retombe. Puis,
Mais tu sais, t'as rejoué au volleyball, là. Est-ce que ça se perd beaucoup?
Non.
Tu sais, c'est ça. C'est ça. Moi, l'été passé, on sucré-salé, on faisait un spécial topo water polo, là, puis c'était moi. On m'envoyait jouer contre genre des cadettes, là, tu sais, les filles, je pense, qui ont 12 ans, là, puis... Ouais. Il y avait de la misère, là. Tu sais, j'étais comme, OK, c'est ça, là, ça se perd, le water polo, là. Tu sais, la mise au jeu, j'ai gagné de peine et de misère contre Pat Bélanger, qui est juste orgueilleux et non pas en forme, là, au niveau de la piscine. Il est en forme, mais c'est pas un nageur, là, tu sais.
Mais c'est ça, c'est de le faire tous les jours. Moi, j'étais sport-études, fait que j'étais constamment au gym, puis je veux dire... Puis, sauf que j'ai l'impression que plus tu vieillis, puis je pense que ça doit faire ça dans beaucoup de sports, tu anticipes les mouvements beaucoup mieux, fait que tu deviens plus smart par rapport à ce qui se passe, puis tu te places juste mieux, tu dépenses moins d'énergie inutilement. Fait que moi, c'est ça qui faisait qu'en vieillissant, j'étais correct. Là. Je comprenais ce qui se passait, puis je me plaçais dans le trou, puis j'attendais, puis la balle, soit qu'elle était bloquée, soit qu'elle me tombait dessus. Mais avant, j'aurais fait 18 aller-retour, j'aurais spiné pour rien, puis c'est fini que tu te brûles, là. Tu n'as plus ce gaz-là. Là.
Veux-tu j'aille plus loin? À un moment donné, là, tu vas voir, tu vas vieillir encore plus, puis tu ne reverras même pas la fin. Fait que dans le fond, tu ne pourras pas mordre, tu ne l'auras pas vu.
Ah ouais.
Fait que si tu perds deux ratures dans ton sport, tu vas voir, à un moment donné, ils sont rendus tellement vite que tu fais comme... Ah, ben finalement, c'est pas une question de savoir. Je suis juste rendu assez lent pour pas mordre.
Mais as-tu déjà eu ce feeling-là, Luc, pendant une game où t'es comme, OK, là, je sens que je commence à... Genre, je ralentis, puis j'espère que tout le monde ne remarque pas, ben je vais pas perdre ma place, là.
Non, parce que j'ai tout le temps... Je pense que j'ai tout le temps livré un effort qui était... tu sais, comme jusqu'à mon dernier match que j'ai disputé le 4 juillet, tu sais, tu regardes la bande vidéo, puis je suis tout le temps un des premiers joueurs rendus au ballon. Je relève mon coéquipier, je reviens au huddle. Tu sais, j'ai tout le temps livré une bonne performance. Mais par contre, je suis capable de constater, moi, tu sais, qu'entre du film de 2012 et du film de 2019, il y a une différence. Tu sais, c'est la différence athlétique. Tu sais, comme le... je sais pas, l'explosion, l'explosivité, tu sais, la vitesse rapide, ce côté-là était disparu. Par exemple, en termes de force physique, tu sais, j'étais plus fort en fin de carrière que je l'étais en début. Vraiment, dans tout ce qui était gym, lorsque je me pointais au gym puis je m'entraînais, tu sais, mes charges, ça a tout le temps continué à augmenter, ça a tout le temps resté dans cette... comment dire, dans le cycle normal des choses, parce que aussi au niveau athlétique, tu es capable, tu sais, jusqu'à l'âge de 35, 36, 37, 38 ans, tu es capable, en termes de force, de continuer à progresser, là, tu sais, naturellement, sans, tu sais, c'est juste une question d'assiduité, puis de professionnalisme, puis de vouloir le faire, d'être, tu sais, d'avoir l'amour de qu'est-ce que tu fais, puis de continuer à bien l'exécuter. Mais au niveau vitesse, il y avait une différence. Okay. Puis même, je pourrais dire, tissu à 10 peu aussi, je me trouvais pas mal plus gras, pas mal plus rond en fin de carrière qu'en début. Là.
Ça, c'est con, mais c'est une vraie question naïvement. C'est-tu dû à... c'est carrément juste physique ou c'est l'entraînement qui est différent ou c'est... Comment ça...
On est pas ici en vieillissant, là, quand même. Là, je sais pas si ça marche pour toi. Moi, je le vois, moi, puis je suis pas un athlète de haut niveau, là, mais j'ai pécié en vieillissant. Là.
T'es en shape, Pino, là.
OK, si tu savais à quel point, je ne voudrais pas que l'entraîneur voie ça.
Mike, alors, en tout cas, je trouve que t'es en forme. Là.
Mais moi, ce que j'aime, attends, parce que là, je veux pas couper Luc, là, mais non, vas-y, Luc, puis après ça, on reviendra à ça.
Ouais.
Mon tour, non, ce que je voulais dire, c'est si tu le ressens, tu sais, moi, je peux te dire qu'à partir du moment où est-ce que j'ai eu ma blessure au genou, tu sais, tout l'entraînement a été différent par la suite. Tu sais, j'ai jamais recommencé à faire tous les exercices puis le même style de course que j'effectuais avant parce que courir, mettons, faire les changements de direction, faire mes choses d'impulsion que j'effectuais quand j'étais plus jeune puis avec tous mes morceaux d'origine, si on veut, mon stop and go, je rentrais, j'avais les jambes raquées puis le lendemain, je pouvais recommencer. Des fois, le genou droit, ben, il se remettait à faire de l'enflure. Puis là, tu sais, si t'as de l'enflure, t'as un 4 jours à prendre de la glace puis à te faire traiter en physiothérapie, traitement de glace. Fait que t'es plus capable d'avoir la même assiduité. T'es plus capable d'effectuer les mêmes choses. Là, il faut que t'arrives à doser tes efforts puis à utiliser d'autres moyens. Tu sais, je me suis mis à faire des entraînements de blood flowing restriction, des entraînements en restriction sanguinaire dans le muscle, là, qui peut créer aussi de la... Guillaume, tu sais, la viande qui meurt.
Ouais,
c'est
nécrose. Nécrose.
Ouais, mais j'utilisais les bons moyens. J'avais tout le temps les pompes à pression aussi bien réglées pour pas que ça se provoque, là, que ça se fasse. Mais tu sais, j'ai utilisé d'autres façons de m'entraîner pour continuer à performer. Mais quand je suis revenu de ma blessure, je me couchais avec une machine à glace dans mon lit, puis je dormais toute la nuit avec des cycles de glace automatiques sur mon genou pour être sûr de... être capable de faire la pratique le lendemain, pas le match, juste de faire la pratique du lendemain. Puis tu sais, j'ai tout le temps été un gars qui a essayé de tu sais, j'ai vu un paquet de joueurs évidemment dans ma carrière qui ont opté pour camoufler la douleur du type tu sais de la prise d'anti-inflammatoire puis d'antidouleur. Moi, j'ai tout le temps essayé de rester pur et intègre puis tu sais de dire ok, je vais ressentir ce que j'ai à ressentir puis après ça, je m'arrangerai pour le guérir ou tu sais dans tout ce qui est possible. puis qui n'est pas néfaste pour moi à long terme non plus.
C'est ça, parce que tu payes le prix après, anyways. Là.
Ben, c'est ça, c'est ça. Si tu le sens pas, tu fais juste l'empirer. Fait que je préfère, j'ai tout le temps préféré sentir ce que j'avais à sentir. Fait que c'est sûr que des fois, je me regardais courir sur une bande vidéo puis je me voyais boiter d'une jambe. Tu le sens pas quand tu l'effectues. Mais quand tu le vois sur film, tu fais « Ah, il court, puis tu sais, il boite d'un côté. » Puis là, après ça, t'as le cerveau qui embarque, qui dit « OK, s'il me voit courir en boitant, ben tu sais, ils vont dire « OK, c'est un joueur fini » ou « Il est sur le bord de light. » Bon, fait que là, il faut que j'arrête de boiter. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, tu... C'est ça. C'est un gros casse-tête.
Ouais, c'est... Mes hommages, c'est pas vrai, là. Mmh. Mais ouais, mais Pino est plus en shape que Kiddy. Je suis sûr que oui.
Non, pas tant. Ce que j'aime, tu sais, que tu dis ça, parce que le monde pense en shape parce que je porte des t-shirts, là. Parce que sinon, si j'étais en chaise, je ferais comme, Chris, il est pas si en shape que ça.
Moi, je te vois, ok, je te trouve.
Mais moi, c'est là que j'en reviens ici à la maison puis que je suis fier. Non, pas de trouble. Ouais. quand je joue au Cosum, c'est là que je suis vieux au Cosum, là. Je suis vieux, je me rends compte, on arrive là, puis c'est tous des gars de 20-22 ans, là, puis tu fais comme, ah, ben, j'ai réussi à continuer à courir, mais, tu sais, j'étais là mardi dernier, là, puis je suis, OK, ben, le gars le plus vieux en dessous de moi, il a genre 28, là. Ouais. Tu sais, j'en ai quand même pratiquement 10 de plus, là, mais c'est juste, ça paraît pas, j'ai un baby face. Mais ouais, fait que, mais j'aime ça. C'est juste que je suis plus que tout le monde. Puis, j'ai du fort d'arrêt. Ouais.
Hey, je viens d'avoir le souvenir quand Luc, t'es venu jouer dans Drôle de Ligue une fois à un moment donné, puis tu jouais pas d'épaulette.
Ah, j'ai jamais joué avec des épaulettes parce que justement, c'est. c'est juste ridicule quand je mets des épaulettes parce que de toute façon, à base, là, les chandails sont souvent un petit peu petits.
ouais.
Puis là, je mets le chandail, puis en plus, avec les épaulettes, là, j'ai vraiment l'impression... Non, on n'a pas besoin. Dans le fond, s'il n'y a pas de contact, mais même s'il y avait du contact, je pense que...
Ouais, écoute, on n'a pas
c'est
de contact.
C'est les lancers qui sont tough, des fois, à recevoir. Mais encore là, tu sais quoi? Moi, j'ai le stock d'hockey d'un ami qui s'est pété un genou, là, qui est Hugo, là, encore une fois, le frère de William. Là. Puis Hugo m'a donné son stock. Tu sais, quand on achète du stock d'hockey au début, là, on achète des grosses épaulettes. Mais tu sais, moi, j'ai des grosses épaulettes d'hockey et je savais pas. Je sais comment, ils sont gratis, je les ai eues. Puis quand je suis arrivé à la classique de Kevin Raphaël, j'étais assis dans le vestiaire à côté de Maxime Talbot. Puis je dis, vous faites ça encore dans la Ligue nationale, comme aider votre ami à mettre son chandail parce qu'il est pogné dans les épaulettes. Il dit, ouais, il n'y a pas de trouble. Mais il dit, juste te dire, là. Sont complètement illégales, des épaulettes. Il dit, il n'y a personne dans la ligue qui porte ça. Là. Non, c'est... Fait que c'est nous qui se padent trop parce que les gars essaient de rester le plus à l'aise possible. Puis il n'y a personne qui a de grosses épaulettes quand tu regardes aussi dans la Ligue nationale. Là.
Ouais.
Les gars jouent avec des petites épaulettes.
Est-ce que c'est drôle de te le faire par un pro?
Ouais, par un gars qui a gagné la Coupe Stanley parce qu'il a fait 2 buts à son dernier match. Là. Ouais, je sais.
Mais la classique, justement, c'est là. Tu sais, moi, je l'ai fait une couple de fois aussi. Puis, maintenant, je me suis fait comme roaster par... c'était lui, Duclair, puis je ne sais plus qui d'autre. Parce que j'avais... Moi, j'ai le jackstrap avec juste la coquille puis l'espèce d'élastique. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas une culotte jackstrap, c'est juste un G-string avec une coquille, là. Ouais, moi, c'est la seule affaire qui marche, sinon ça bouge tout le temps, puis je suis pas bien sur la glace. Là. Puis, tu sais, je porte ça, puis là, ils font juste comme me roaster, puis les trois sont là. Puis là, je suis comme, ben là, les gars, ils ont senti qu'ils allaient peut-être trop loin, puis ils étaient comme, hey, pour vrai, on s'excuse. Il était super sweet, c'est juste qu'il était en mode hockey, chambre de hockey, puis j'étais comme, hey, moi, je joue des fois dans le truc de garage, là, puis vous êtes pas trois pros, là.
Je comprends parce qu'on est des humoristes, puis ils font des jokes, mais de l'autre côté, nous autres, on est comme, Chris, c'est des gars de la Ligue nationale. Là.
Ouais, moi,
moi aussi, tu sais, je vois, il y avait. Il s'appelle Nicolas Desharnais, il était drafté par Edmonton, tu sais. Il est là, puis il s'en va. Vincent Desharnais, excuse-moi. Il est tellement drôle en plus, puis ils mettent des lancers de punition entre les périodes pour donner un peu de show là, pour la levée de fond, puis tout ça. Puis lui, il fait un slap shot, mon gars, ça rentre top net, je suis comme, ah, c'est dommage. Le Breton me dit, t'es pas game d'en faire un, toi. Je fais, mais certainement. Et là, j'arrive, puis c'est une levée de fond, là, puis je crée ça direct dans le casque du goaler, là, qui est pas là pour ça, là, lui-là. Là. Mais c'est parce qu'au début, en plus, c'était une goaleuse de l'autre côté, fait que c'était la goaleuse des Canadiennes. Puis je suis comme, non, je viens pas d'y mettre la puck dans la face comme un assassin imbécile. Puis finalement, en m'approchant, je me suis rendu compte qu'il y avait switché, puis c'était Zachary Fucalé. Fait que j'étais comme, ah, il est capable d'en prendre. Le lendemain que j'ai publié la vidéo, il s'est fait drafter par Washington. Fait que moi, ouais, je pense sincèrement que ça l'a juste aidé. Là, ils ont fait. Il est encore capable de gauler. Là. J'arrête de solide slap shot, soit dit en passant. Si mon coach de Pee-wee, écoute, mange la merde, tu regarderas mon slap shot, je suis capable d'en faire. C'est juste, ça me prenait des bâtons en composite. C'est ça le problème.
Comment vous trouvez ça, vous autres?
Non, vas-y.
Oui. Comment vous trouvez ça, vous autres, quand il y a des événements comme ça, que tu joues avec des professionnels du hockey?
Moi j'ai du plaisir parce que justement, j'ai pas cet orgueil-là compétitif. T'sais, mettons un Jay du Temple, là, c'est pas une insulte, ouais, il sait qu'il est compétitif. Là. Il va arriver dans une game de même, puis ça va se sentir qu'il veut performer, puis il va y aller à fond. Mais j'ai pas, moi, cette espèce de drive-là. Je suis juste content de le vivre. Je veux faire de mon mieux, mais je me tape pas ça à la tête. Fait que je trouve ça le fun de partager des moments avec des vrais pros. J'ai joué sur une ligne.
C'est ça. Mais moi, tu vois, justement, quand c'est arrivé à la fin, puis c'était 12-11, j'ai dit, je vais rester au banc, là. Envoyez-les, là, le gars de la Ligue nationale. Tu sais, j'ai joué un autre match avec Pascal Dupuis, qui a joué avec, avec Crosby, là. Ouais, c'est ça. Man! Puis il jouait à Def, en plus, là. C'était juste pour le fun, là. Fait qu'il jouait à Def, puis c'était mon partner. Puis à un moment donné, il y a un gros breakaway, puis je suis clairement pas capable de rattraper le gars. Puis il m'a juste rentré le hockey sur le bord, genre, de la hanche. Puis il m'a poussé. J'ai jamais eu un boost. C'était comme pogner un champignon ou une étoile, même, à la Rio Kart. J'ai rien compris. Je me suis ramassé en avant du gars en breakaway, puis j'ai fait, voyons donc. Puis il m'a dit, ouais, c'est un petit truc. J'étais comme, mais ouais, c'est donc, ben là, c'est un gars de la Ligue nationale qui m'a poussé. Fait que c'est cœur, hein.
Mais j'avais une pause, puis j'étais tombé. Parce que la passe était plus forte que mes shots. Mon bâton a levé et je suis tombé à terre devant tout le monde. Là, j'étais comme. Ouais. Mais j'avais ça, bien vu le jeu. Là.
C'est parce que t'avais plus 3 points d'appui, puis c'est pour ça.
Non, c'était ça. C'était pas.
Quand on a commencé, nous autres, quand j'ai commencé à jouer avec les Éloignes, on faisait des tournées, puis on faisait plein de ligues de garage, puis on jouait au hockey durant la saison morte, contre des ligues de garage, partout au Québec. Là, on se promenait partout. Puis la dernière game qu'on avait eue en 2009 ou 2010, je me souviens plus quelle année, on jouait contre les anciens Canadiens. Fait que c'était les Alouettes, c'est édition actuelle avec quelques joueurs qui avaient pris leur retraite contre des anciens Canadiens. En première période, on n'a jamais touché à puck. Wow. Jamais. Comme quand tu dis jamais, là, je pense que c'était rendu 12-0 après la première période. Il y avait Stéphane Richer qui était comme, il y a quoi, je pense qu'à l'époque, il avait comme 44 ans. Là, il venait.
Ah,
comme,
ton numéro!
Son numéro, en plus. C'est peut-être pour ça que j'ai 44 ans en tête, mais en tout cas, whatever.
Ouais.
sa shot était écœurante. Son coup de patin, c'était ridicule.
Non, mais là, Richer, c'était un solide joueur aussi. Là. C'était.
Ouais.
Man, c'est notre dernier joueur de 50 buts.
Ouais, deux saisons d'affilée, hein, right?
Ouais,
c'est deux saisons, deux saisons d'affilée de 50 buts. Ouais. Non, mais il n'y plus John Leclerc si on ne l'avait pas échangé contre Mark Rickey.
Mais je veux juste. C'est parce que souvent, en plus, les anciens joueurs, c'est des bons joueurs. Mais tu sais, même le moins bon de la Ligue nationale nous brûle de même. Moi, je me rappelle d'avoir vu à un événement Georges Larac.
C'est ça. Tu vois
Georges Larac,
il a l'air d'un peu comme perdu. Mais man, c'est une machine de hockey, c'est juste que nous autres, quand on le voit par rapport à d'autres gars qui sont encore autant ou sinon plus talentueux, mais pour nous autres, c'est une machine de guerre.
Là, la première classique, il était là, la RAC, justement, puis c'était ridicule. Puis tu sais, tu parlais de la shot tantôt sur le goaler. La dernière classique que j'ai faite il y a peut-être 2 ans, Chris Letang, il est là. Puis là, on est en warm-up. Puis à la fin du warm-up, il y a un gars qui fait « Hey, mon frère, il est goaler. Finalement, il est rendu paralympique parce qu'il y a eu un accident et tout ça. Il aimerait ça, tu sais, se mettre dans un but. Tu peux-tu, genre, shotter dessus? » Puis là, il fait « Ben oui, pas de trouble, tu sais. » Puis là, c'est son frère qui est dans le goal. Fait que là, le gars, il arrive avec c'est une espèce de chaise. Je sais pas trop comment
il
est. Puis là, il est là, puis il est tout content. Et son frère va le voir, pour Chris, pour dire « Hey, gêne-toi pas, là. Lui, il rêve d'avoir une shot de Ligue nationale, là. Crinque-les, là. Fait qu'il fait pas de trouble. » Et là, il crinque, puis direct, ça a poire, là. Mais ouais, c'est une shot de Christopher Letang, ça a poire, là.
Là, t'es comme... Hey, je me sentais mal.
Il rentre dans la chambre, puis il fait... Il dit il me sent mal. Là. Je fais qu'est-ce que quoi? Il dit ben, t'as vu? Je fais ouais. Il dit ben, c'est ça. Il m'a demandé, mais le gars, il est déjà comme il a un handicap. Puis là, j'ai collé ça sur la tête. Puis il dit écoute, il se sentait tellement mal. Puis finalement, genre, c'était correct parce que l'autre il est rentré. Puis il était comme hey, merci, c'était vraiment nice. Puis il est comme ok, cool, phew.
Ok, tu respires encore, c'est super. Ouais. Non, c'est ça. C'est hey, mais c'est tellement hot. Moi, à cause de Luc, en fait. Quand je commençais l'humour, Luc était déjà ami avec Jean-Michel Anctil parce que vous étiez allé en Afghanistan, genre, ensemble.
Ouais, on a fait un voyage en Afghanistan ensemble, ouais.
C'est hot, ça.
Puis, fait que Mané, Jean-Michel appelle Luc, tu sais, pour jouer au poker. Puis, il dit, ah, il nous manque quelqu'un, si tu veux amener quelqu'un. Puis là, Luc, il fait, ah, si je m'emmenais Pino, là, tu sais. Puis là, moi, mon gars, je descends chez Jean-Michel, je suis heureux. Je suis un vrai humoriste.
À la maison Harry Potter.
Ouais, ouais, exact. Puis là, on joue au poker. Puis pendant qu'on joue au poker, il reçoit un call de match amical qui est une game pour les différents. Que c'est Emmanuel Auger qui organise ça. Puis c'est du monde avec des handicaps physiques et intellectuels, tu sais. Puis ils font toujours un gros match. Puis ça fait 14 ans que ça a lieu. Puis ça fait 14 ans que les différents gagnent le match. Puis on arrive là-bas. Puis moi, tu sais, déjà, mon CV pour me présenter au début pour la grosse entrée, c'est comme... Vous l'avez peut-être vu en route ou pas. Et là, j'embarque sur la glace, personne ne me connaît. Man, c'est 8-7 pour les différents. Il reste une minute. Et là, je suis conscient, là, tu sais, que faut pas que je la crisse top net, là, tu sais. Fait que je prends une shot, puis je me dis, je vais vraiment viser à côté du but pour pas aller annuler ça comme à une minute de la fin, puis être le style de vidange, là, tu sais. Et en shotant, il y a un gars... place, ça dévie sur lui, puis j'ai la crise dans le net, et là, tout le monde de mon équipe me regarde, font « T'es sérieux? » Puis il y a André Roy qui vient me voir, il fait « Voyons, tabarnak! C'est un match d'enfant! » Puis là, il y a un autre gars qui passe, Frank Lachapelle, je ne me rappelle plus, Landreville, François Landreville, qui est entraîneur comme préparateur physique pour les joueurs du Canadien. Il dit, les gars, célébrez, là, vous avez fait un but, là. Mais je suis comme, yeah! À chaque année, les gars en ont parlé. Ah, toi, t'es le style d'épée de la première année, hein, c'est ça, là. Fait que, ouais, les matchs amicaux, là.
Tu as essayé, en plus.
Ah, ouais, je sais, mais tu sais, explique ça après ça, là, personne ne te croit.
Oh, man. Okay. On amorce la descente tranquillement vers la fin du show. Luc, j'avais envie de te parler de quelque chose. Que j'ai trouvé bien intéressant en faisant des recherches, c'est ta blonde, le travail qu'elle fait. Elle est directrice du satellite, de l'organisme
satellite. Oui, prévention dépendance, ici à Saint-Hyacinthe. Fait qu'elle se promène, dans le fond, l'organisme se promène dans toutes les écoles de la MRC des Mascoutins. Puis, dans le fond, il attaque un peu toutes les sortes de dépendances qui existent dans le monde. Tu sais, c'est pas juste une question de consommer des drogues, mais c'est la dépendance émotive, la dépendance à technologie, la vie sociale, essayer de prendre confiance en soi et non pas chercher l'amour partout, tu sais, de juste dire je suis toi-même. C'est ça, la validation sociale. Donc il travaille sur de multiples facettes. Tu sais, c'est un organisme qui vient un peu en soi remplacer ou pallier à la disparition des cours de formation personnelle et sociale que nous, on avait peut-être à notre secondaire, là, puis dans notre jeunesse, puis il n'y a plus ça maintenant dans le milieu scolaire. Donc, Oui. Puis maintenant, il y a aussi une vague aussi avec la légalisation du cannabis, de prévention aussi dans les entreprises. C'est-à-dire que en termes un employé conventionnel, quand tu t'en vas manger au midi, tu sais, c'est consommation d'alcool et tout. Tu sais, l'alcool est légal aussi, mais ça fait pas en sorte que en tant que travailleur, tu sais, à tous les midis, tu vas aller te boire une dizaine de bières puis tu vas rentrer travailler à l'après-midi. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, il en va de soi aussi avec le cannabis. Donc, la formation pour les employeurs et à la fois aussi les employés sur la prévention de la dépendance au cannabis, même si, tu sais, elle n'est pas nécessairement physique, mais mentale. C'est de savoir quand et comment la consommer.
OK, c'est cool. Puis en ce moment, avec la pandémie puis tout ça, puis toi, l'arrêt de tes activités, que là, t'es à la maison, puis t'as trois gars, c'est ça?
Oui.
C'est une vie, ça brasse, là, j'imagine, comme milieu familial, là.
Oui, 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 ça brasse. C'est des jeunes garçons, hein, des jeunes garçons qui courent partout, qui veulent tout démolir. Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'essaie de bâtir ma maison, puis mon gars passe son temps à démolir. Je mets des isolations à quelque part. Lui, il te fait du nouveau styrofoam. Il tire dessus, puis il l'égrène. De toute beauté, c'est vraiment amusant. Mais tu sais, regarde, c'est la beauté de la chose, j'imagine. Quelle mauvaise décision de Thomas. C'est de faire des rénovations avec des jeunes enfants, tout le monde. Non. C'est juste non. Mais non, je suis privilégié de vivre ça, par exemple. Sans blague, là, il y a probablement que ça ne se reproduira plus pour personne, tu sais, dans les générations futures. Là. Antérieurement, tu sais, dans la vie, même un homme conventionnel, tu sais, qui avait sa job, si on se rapporte, admettons, en 1850, 1900, 1920, peu importe les générations, là, c'était l'homme se lève le matin, s'en va au travail, puis, tu sais, dans le fond... jusqu'à l'émancipation de la femme, tu sais, c'était la femme à la maison avec les enfants. Puis moi, en tant qu'homme, tu sais, d'avoir la chance, puis j'en parlais en plus avec ma femme un matin, tu sais, c'est sûr que j'ai hâte de, tu sais, de retourner au football, puis de, tu sais, de revoir le monde, puis de vivre une saison de football, tu sais, c'est excitant, c'est motivant, c'est dynamique, c'est le fun. Mais en tant qu'homme, tu sais, être à la maison puis voir tes enfants, tu sais, d'avoir été là la première journée d'école de mon fils, tu sais, je sais que je l'aurais pas vécu. Je sais que je l'aurais pas vu, que j'y aurais pas été. Parce que, non, mais c'est con à dire, mais c'est vrai que je l'aurais pas vécu. Je serais parti, j'aurais été à job puis ça aurait été sa première journée d'école. Tu sais, je l'aurais pas vu, tu sais. Là, j'étais là. C'est le fun.
Mais là où je voulais m'en aller avec ça, c'est que les besoins en tout ce qui est santé mentale ont été comme ont explosé durant la pandémie, tout ce qui est consommation, dépendance et compagnie. Fait que j'imagine que du bord de ta blonde ou ta femme, je ne sais pas comment la nommer, là,
ça a dû... Ce que tu veux, c'est chose. Okay, ça chose.
Du côté de choses, elle a dû être encore plus.
Marie-Hélène.
Oui, elle est dans le jus. Pour vrai, ça a été...
non, je riais tantôt, c'est parce que si les gens écoutent puis ils font on y a on a l'air de ça, c'est parce que là qu'il compte ça, je suis privilégié puis je vois mes gars puis j'ai les chances d'avoir leur première journée à l'école. Luc a oublié son gars à l'école la première journée aussi là.
Ah ouais. Hein?
T'sais, faut que ça chie là.
Moi je suis content.
première journée d'école. J'arrive à l'école, mon gars. Papa. Papa, comment ça t'es le dernier papa arrivé? Ils sont tous arrivés, tout le monde est arrivé. Comment ça, c'est juste moi qui attends? La première journée d'école, tu sais, j'étais tellement habitué, la garderie, c'était tout le temps vers 4 heures, tu sais. Ah, 3 heures, je suis correct. Là, ma femme m'appelle, you know. Je suis parti à l'école, première journée d'école, je sais que j'ai manqué à la fin des classes. Ouais.
Je me disais, il va dire lui-même en me voyant rire. Non, comme là,
non. Je t'ai vu rire, puis j'étais là, voyons, c'est quoi que j'ai dit de drôle?
Peut-être qu'il veut pas que j'aille là, mais d'un autre côté, je peux pas croire là, qu'il en parle pas.
Non,
là.
Non. Il est ça là,
bon il est là, de la beauté de ta maison. Excuse-moi, Pimi, je t'ai coupé dans.
Mais non, mais c'est pas correct. Écoute, c'était pour une très bonne raison. J'adore ça. Ouais.
Marie-Hélène, dans le fond, pour son travail, comme tu me posais la question, c'est qu'encore aujourd'hui, le contexte est difficile, je pense, dans toutes les sphères, parce que la demande n'a pas disparu. Tu sais, les problèmes de consommation dans la société sont soit demeurés, sinon se sont aggravés avec la manque de ressources. Puis tu sais, on l'a vu, tu sais, les gens au début contestaient les choix gouvernementaux de dire on garde les SAQ ouvertes, puis on garde la SQDC ouverte. Tu sais, c'est juste la responsabilisation sociale. Tu sais, est-ce que c'est un service essentiel? Certes, quand tu n'as pas de problème de consommation, ce n'est pas un. Tu sais, mais c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup plus que son nombril sur la planète. Tu sais, puis des gens qui ont des problèmes de consommation, s'ils ne retrouvent pas un milieu d'accès à leur dépendance XY, ils vont juste se tourner vers une alternative. Tu sais, le problème et le cycle de la dépendance ne disparaît pas parce que tu enlèves la ressource. Non, ça fait juste que tu optes pour quelque chose de soit pire que la dépendance antérieure à un autre produit. Donc, c'est pas la voie à prendre. Non, la voie à prendre, c'est de social. Ben, tu sais, d'encadrer, de sensibiliser les gens. Puis, tu sais, c'est toujours mieux de travailler en amont qu'en aval. Tu sais, tu essaies de prévenir, de savoir que quand tu prends un produit, ben, il y a une panoplie de risques, mais il y a aussi comment dire, les gens qui consomment de l'alcool ou qui consomment de la marijuana, des fois, c'est juste à titre récréatif et puis c'est pas nécessairement pris dans un cycle de dépendance. C'est dans un événement social, c'est pour X, Y raison. Mais c'est important de comprendre les risques de chacune des choses qu'on prend. Quand j'étais jeune, je ne buvais pas de café, puis on dirait maintenant je suis plus capable de me lever le matin si j'ai pas de café. C'est une drogue. Oui, la caféine est une drogue. Donc, tu sais, c'est tout le temps de savoir, bon, ben qu'est-ce qu'il y a dans chaque produit qu'on ingère, dans chaque chose qu'on consomme. Puis le travail en amont, justement, est de plus en plus difficile parce qu'avec la COVID, en ce moment, l'accès au milieu des écoles pour aller s'adresser aux jeunes, c'est pas aussi facile que ça l'était auparavant.
Oui, vraiment. En tout cas, c'est très cool. Tu passeras mes hommages.
Yes.
Là, merci beaucoup, les gars. Ça a été un super beau podcast. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on fasse ça puis qu'on essayait. Ça fait quoi? J'ai regardé le message. Ça faisait 3 ans, je pense, ou 2 ans qu'on avait la première fois essayé.
c'est le fort faire, possible.
De le faire en temps.
Ouais, on est capable de le faire à distance. Fait que c'est le fun aussi. Ouais. C'est une nouvelle chose aussi que les plateformes de télétravail puis de podcast puis d'être tout capable de rester dans son milieu. Ça favorise aussi, dans un certain sens, un moyen qui n'était pas présent avant. Avant, on essayait tout le temps de se déplacer pour s'en aller dans le même milieu, dans la même place. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, ultimement, tout le monde a économisé du temps. Là,
Bien, Peter. Puis, pour vrai, la réponse est super bonne. T'sais. Moi, mettons, tout ce qui a changé sur mes plateformes, c'est que là, il y a moins de visionnement sur YouTube, puis ils ont compensé par des écoutes audio. Fait que les gens ont transféré parce que d'un point de vue visuel, peut-être que c'est moins stimulant qu'un tournage live. Là. Mais les chiffres sont les mêmes, sinon il y a une augmentation même, puis ça se passe plus du côté audio. Fait que je pense que c'est une très bonne chose que la pandémie ne va pas juste avoir eu du mauvais. Là. On va s'être adapté de plein de façons, on va être obligé de s'être forcé à avoir fait les choses différemment. Puis j'ai l'impression qu'on va voir le positif, mais qu'on ait assez de recul pour le voir. Mais pour l'instant,
on est
fuck. Ils vont annuler, puis je t'annais, puis j'ai hâte de faire des
jours, là, mais... Je comprends.
On a hâte de faire du monde, hein?
Ouais, Chris, oui, man.
Ouais.
J'ai mon gros show là, à Québec la semaine prochaine, puis je sais même pas s'il y a lieu, là, puis c'est dans 8 jours. Là. C'est ma captation, puis tout ça, puis là, j'ai...
T'es où? Au Champlain?
À l'Impérial.
Oh, shit, à l'Impérial, je sais pas, parce que le petit Champlain, moi, j'étais là la semaine passée, ça fonctionne. Ils se sont adaptés.
Mais ça dépend du changement de zone. Je pense que ça passe zone orange. C'est ça.
C'est direct ça. On est direct là-dedans en ce moment.
On est à jaune, là?
Ouais, on est à jaune. On est le 17 en ce moment, moment où on enregistre. Moi, c'est le 25, puis ça se peut très bien. J'ai reçu un appel du producteur et tout ça. Ils sont comme, ça se peut qu'on annule. Puis je fais comme, hey, man, je suis tanné. Mais en même temps, si c'est la chose à faire, c'est la chose à faire. Hein, fait que,
c'est sûr.
Ça paraît intelligent et responsable que égocentrique, puis fuck tout, fuck les masques, puis aller chier. Là. C'est ça. Fait qu'on va rouler avec les coups, mais maintenant, on a hâte de se voir en vrai. Là.
Exact. Mais merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir.
Merci à toi. Guillaume, faut être entraîné, puis Luc,
dans une demi-heure, mettons
une demi-heure. Une demi-heure, je m'en vais. À 15h, que je sois à l'école.
Bon. Prenez soin de vous autres, c'était super le fun, merci beaucoup.
Yeah. Thanks, PB.
Merci.
Ciao, les gars.
Ciao.
Bye-bye.
Bye.